7h03 dans le retour à Boulevard 102.1. Encore presque une heure à passer ensemble en ce début de semaine. On est ensemble jusqu'à jeudi parce que le vendredi, on lance la fin de semaine plus de bonne heure dès 14h. Et cette semaine, comme je serai en route ou même à 14h, je vais pas mal être sur place au Parc Jean-Drapeau pour le Festival Oceaga. Ben, c'est Dan Caron que vous aurez la chance d'avoir pour lancer votre week-end avec le Boulevard du Rock dès 14h. Nouvelle politique de dernière minute, puis on pourra y revenir dans la prochaine heure, d'ici la fin du show, parce que de toute façon, on va refaire des nouvelles. Mais Elsie Lefebvre, analyste politique, que si vous écoutez à TV, vous voyez souvent LCN, se lance. Et je pense pas que c'est une surprise pour grand monde que c'est pour le Parti québécois.
Non, c'est pas une surprise. Puis si vous la suivez un petit peu, ses opinions sont très cohérentes avec celles du PQ.
Ouais, ben c'est pour ça que je dis...
Ancienne députée du PQ aussi dans Laurier-Dorion, elle avait gagné une élection partielle... plaçant le Parti québécois dans Laurier-Dorion, ce qui était quand même un exploit comme tel. Elle a été députée pendant quelques temps. Elle est aussi directrice générale de La Ruche.
On a-tu d'informations concernant sa circonscription?
Non.
On semble dire que ça va être une circonscription favorable dans la grande région de Montréal.
Oui, donc ce ne sera pas Laurier-Dorion, je vous l'annonce. À mon avis, peut-être plus dans l'est de Montréal. Pointe-aux-Trembles serait un excellent choix.
Donc pour l'instant, c'est les informations de TVA. On n'a pas les détails, mais on pourra y revenir. Peut-être qu'on les aura d'ici la fin du show. Pour l'instant, on aime toujours l'accueillir. On le fait depuis le début de l'été, les lundis aux alentours de 17h. Micha Hurswill qui est en studio. Salut Micha.
Salut tout le monde.
Et là, les statues nous passionnent dans les dernières semaines tellement qu'on a décidé aujourd'hui de reparler de statues. La semaine passée, on parlait de Duplessis, de l'histoire autour de cette statue-là que je connaissais pas et qui était, ma foi, très intéressante. Et cette semaine, on parle d'une autre statue, j'ai quasiment envie de dire encore plus controversée.
Ben oui, non, vous m'avez vraiment lancé dans un rabbit hole, là. Je pense que je pourrais parler de statues pendant des années. Oui, en effet, la semaine passée, on a vu que les statues, c'est plus que de l'art. C'est souvent une manière de se rappeler de l'histoire. Et c'est aussi un statement politique. Qui dit statement politique dit chicane. Donc, oui, on y va. J'y vais directement dans la chicane. Je veux savoir, selon vous, la bataille des plaines d'Abraham. On l'a gagné ou on l'a perdu?
Ben, en tout cas, selon Mark Carney, c'était une grande fête d'amour de réconciliation. C'est pas ça la bonne réponse?
C'était le début d'une belle histoire de collaboration. Que personne n'a gagné. Ben, en fait, personne n'a perdu. Tout le monde a gagné dans cette belle histoire d'amour.
C'est beau.
Ben, moi, à l'école, j'ai appris que les Anglais avaient gagné.
Oui, moi aussi.
Donc, si je vous dis que Wolfe était victorieux, ça vous choque pas? Tout le monde est correct avec ça?
C'est conforme avec ce que j'avais appris.
Oui.
Ben, il y a beaucoup de Québécois que ça choque, ça. Puis c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, si on remonte dans le temps à la Nouvelle-France, à cette époque-là, le globe était essentiellement un gros jeu de risque et les Anglais s'enlignaient pas mal pour gagner cette game-là. Tout ce qu'il leur fallait, c'est remporter Québec parce que qui avait Québec détenait essentiellement toute la Nouvelle-France. Donc, bataille des plaines d'Abraham, Wolfe cessait tout l'été, canonne la ville de Québec complètement détruite, escalade le cap, remporte la bataille. Désolé pour les Français. Mais malheureusement, ou en tout cas, ben, peu importe. Là,
ça dépend de quel bord tu es.
Ouais, exactement. Les deux généraux, Wolfe et Montcalm, y laissent leur vie. Et le lieu du décès de Wolfe, c'est là où on retrouve encore aujourd'hui un monument. C'est quand on est sur Grande Allée et qu'on tourne vers le Musée national des Beaux-Arts, il y a un rond-point, puis au milieu, il y a une colonne avec un casque et une épée. C'est le monument de Wolfe.
C'est quand même controversé qu'il y ait ça encore aujourd'hui?
Quand même.
C'est quand même sur les terrains des champs de bataille. Ça appartient au gouvernement fédéral.
Exact. Ben, au moment où Wolfe est décédé, les Anglais, les soldats, ont roulé une pierre à cet endroit-là pour ne pas oublier que c'était le lieu du décès. Plus tard, Samuel Holland, ou Holland, de son vrai nom, s'est fait donner le mandat de faire l'arpentage de toutes les terres nouvellement britannique, et il n'y avait aucun système de référence, donc il décide que cette pierre-là, ça va être le point zéro, le point de référence. Donc là, tout à coup, ce lieu, qui était déjà historiquement important, revêt toute une autre importance, puis ça devient une espèce de lieu de culte pour tous les Anglais qui s'en vont là. Donc on décide d'ériger une statue, puis là, le monde, un peu comme si c'était le mur de Berlin, ils s'en vont là, puis ils ramassent des petites pierres. Puis là, à un moment donné, bien, la statue commence à être abîmée, fait qu'ils décident d'ériger une clôture autour pour la protéger. Et là, on se dit, ben, on va rendre ça encore mieux. Ils améliorent la statue. Ils mettent une plaque en anglais qui dit que Wolf était victorieux. C'est ici que Wolf est devenu victorieux.
Fait, hey, ça doit avoir mal passé, ça.
Exactement. Puis là, on se trouve dans les années 1800. Donc, à ce moment-là, la ville de Québec devient de plus en plus anglophone. Le lieu de culte devient de plus en plus important. Et au même moment, c'est les patriotes, donc les Canadiens, là, par là, je veux dire les Québécois, commencent à de moins en moins aimer ce lieu-là. Jusqu'à ce qu'on arrive à, disons, à la période du FLQ, avant la crise d'octobre. Parce qu'il y a bien des événements avant d'en arriver là. Quand on arrive dans... si je me souviens bien, le FLQ est fondé au tout début de mars 1963. Et là, il commence à y avoir des petits gestes, mais ce n'est pas un groupe qui est très bien connu. Le premier gros geste qui va bien les faire connaître, du moins à Québec, c'est l'attaque précisément de ce monument-là.
Ah ouais?
Ouais. Où la nuit, ils se pointent avec un pick-up, ils mettent une chaîne autour et font tomber le monument. Là, déjà, c'est un premier geste assez important. Et quelques jours plus tard, la plaque... qui est uniquement en anglais, qui dit que Wolf est victorieux, disparaît. Et là, ça prend du temps avant qu'on le reconstruise, parce que la question se pose, si on le refait, est-ce qu'on remet la même plaque? Est-ce qu'on la met en anglais?
Arrive.
Est-ce que Wolf est toujours victorieux? C'est toutes les questions
parce
qu'on pose.
Parce qu'il faut assumer une deuxième fois... Tu sais, des fois, tu peux te dire, ah, cette statue-là est un peu controversée, mais tu sais, c'est de l'histoire, puis ça a été fait il y a quelques années. Là, quand il faut que tu remettes la statue problématique ou le monument...
Tu peux pas te cacher derrière le fait que ça a été fait... Il y a un bout,
ouais,
puis...
Exactement.
Qu'on a fait quoi?
Donc, ils l'ont remis bilingue. Et maintenant, ce que cette plaque-là... Ben, ce que les plaques disent, c'est que c'est le lieu de décès de Wolf.
C'est ça, moi, que j'avais comme info. Ça m'a surpris quand t'as dit qu'il était écrit que Wolf était victorieux. J'ai toujours l'impression, vraiment, que ça nous a été présenté comme si ces deux hommes-là là, étaient main dans la main là, dans le décès, là.
Oui, bien justement, ça va nous mener au prochain monument, mais avant de passer au prochain, il faut quand même dire que lorsqu'il est vraiment arrivé la crise d'octobre, il y a à nouveau de la peinture qui a été lancée sur ce monument-là. Donc, il y a quand même plusieurs gestes. Tu sais, c'est à répétition, là, vraiment, que ce monument-là, c'est comme le symbole ultime des Anglais qui ont pris Québec.
Mais tu parles de prochain monument.
Ouais.
Fait qu'il y a d'autres endroits qui le commémorent, Wolf.
Exactement. Il y en a plusieurs. Le prochain, il est un peu plus... On est plus dans une espèce... une approche de réconciliation, disons. Et ça date de l'époque de Dalhousie, qui, encore une fois, son vrai nom, c'est plutôt Dalhousie, qui, 60 ans après qu'on ait gagné ou perdu, selon votre opinion, la bataille des Plaines d'Abraham, se dit « Bon, là, je pense que l'eau a coulé sous les ponts. On est maintenant... Tout le monde est body-body. Il n'y a plus de vainqueurs vaincus. Donc, on va faire comme une collecte de fonds et on va construire un monument pour commémorer les deux généraux qui sont tombés au combat. » Ça se trouve à être la grosse... Une obélisque? Je ne le sais pas. On va laisser chercher l'information.
Je crois que c'est une obélisque. C'est à cause du personnage de la BD qu'on pense
c'est un
obélisque.
Oui, un obélisque.
Donc, le gros obélisque qui se trouve dans le petit parc juste à côté du château Frontenac. D'un côté, il est écrit Wolf. De l'autre côté, il est écrit Montcalm. Donc, on a fait une levée de fonds pour commémorer la nouvelle paix ou les deux généraux. Et là, Dalhousie se trouve choqué de constater qu'en fait, les Canadiens français ne sont pas du tout généreux et ne veulent pas donner d'argent. Il n'y a que les anglophones de Québec qui donnent de l'argent. Mais lui, il s'était commis publiquement. Donc, il va être obligé de payer de sa propre poche cet obélisque. Et 100 ans plus tard, grosso modo, il faut la restaurer. Et la personne en charge à ce moment-là décide de faire la même chose, une levée de fonds. Et forcé de constater qu'encore une fois, les Québécois n'ont toujours pas envie de commémorer.
C'est bien drôle.
Ouais, exactement. Mais la dernière anecdote, c'est ma préférée. Un autre monument de Wolf qui est maintenant caché dans un lieu sécuritaire parce qu'il n'arrêtait pas de se faire maganer lui avec.
Ils l'ont mis en isolement préventif.
On se trouve sur la rue Saint-Jean, au coin de la côte du Palais, mettons en face du McDo, puis à côté du Ashton. Il y a une bâtisse au coin là, où on vend des robes, je pense, de nos jours.
Là où j'ai vu une personne en situation d'itinérance samedi soir crier « ta gueule » à des petits-enfants. Là.
Précisément
Pour vrai, c'est exactement là que c'est arrivé. Tout est dans tout.
Mais j'en doute pas que ce soit là. Prochaine fois que vous passez là, levez les yeux en haut, puis vous allez voir qu'il y a un petit piédestal comme au deuxième étage, près de la fenêtre. Tout de suite après encore une fois, l'événement de la bataille des Plaines d'Abraham, il y a quelqu'un, un soldat qui avait eu le général Wolfe comme commandant, décide de commander une statue de Wolfe qui met là direct au coin de la rue. Un jour, au début des années 1800, il y avait des matelots qui étaient à Québec puis qui décident de festoyer fort.
Comme en fin de semaine, où il y avait plein de matelots à Québec, encore une fois.
Exact.
Hey, tout est tellement dans tout. Hein?
Comme quoi, là, c'est pas nouveau que le monde se pète la gueule sur Saint-Jean. Il y a des choses qui changent jamais. Et donc, ce matelot, un peu festif, avec ses amis, décide de prendre la statue et de la ramener sur son bateau. Et donc, cette petite statuette de Wolfe s'est ramassée aux Bermudes, mesdames et messieurs, en Angleterre. Et là, un jour, quelqu'un s'est rendu compte que ça, c'était censé être à Québec. Donc, ça a été ramené, remis à sa place. Et un jour, ben là, quand on revient à l'épisode du FLQ, justement, tous les monuments de Wolfe à Québec étaient menacés et le propriétaire de cette bâtisse-là avait reçu des menaces que si la statuette de Wolfe dégageait pas, ça se pouvait qu'il arrive quelque chose. Donc là, on l'a mis en sûreté au Marin Center. Donc, si vous voulez la voir, c'est pas impressionnant, là. Descendez vos attentes. Elle est pas particulièrement belle, mais crime, ça s'est ramassé aux Bermudes. Il y a une histoire, il y a quelque chose.
Mais ça me surprend de voir qu'on a autant voulu commémorer Wolfe. Alors que, ben, t'sais, on est au Québec, puis là, je comprends que des fois, ben, c'était mené justement par des anglophones, puis que... Mais je sais pas, j'aime...
Des fois, il y a une incompréhension de ces sensibilités-là, carrément. C'est comme, ben, pourquoi vous voulez pas?
Pourquoi ça vous fâche?
Pourquoi ça vous fâche? C'est ce que j'appelle le anglo-privilege.
Mais je pense qu'en effet, ils datent tous d'il y a vraiment longtemps. Fait que là, on les préserve. Mais tu sais, mettons, si on remonte juste un petit peu plus loin dans l'histoire, Lord Durham, là, je pense que... À ma connaissance, corrigez-moi quelqu'un, là, mais je pense pas qu'il y ait aucun monument qui commémore Lord... Ben, okay, oui, il y a une importance, c'est différent de Wolfe, mais il y a quand même son importance
dans
l'histoire
les livres
du Québec.
Oui, une statue de Lord Durham dans un parc, je pense que les pick-up et les chaînes vont être au rendez-vous, honnêtement.
Exactement. Fait que comme quoi, déjà là, à cette époque-là, les sensibilités avaient... changer, évoluer. On était plus conscients du danger qui se trame à essayer de commémorer des personnages comme ça.
À Québec, on avait la terrasse du Ram qui est devenue la terrasse du Frein.
Hein?
Ben, je viens de trouver ça.
Ben voyons donc,
fait qu'on l'avait, puis on l'a changé de nom. T'imagines-tu que ça aurait pas de bon sens d'avoir la terrasse du Ram aujourd'hui avec ce qu'on sait de ce personnage-là?
Ça, pour nous, c'est comme un bourreau. Là, je veux pas tomber dans le point Godwin, là, mais d'ailleurs, on peut pas commémorer ça. Là.
C'est la première fois que je le remarque, mais Durham, on le prononce encore en anglais, alors que Dufresne, on le dit en français. Qu'est-ce que j'ai nommé d'autre aujourd'hui? Hollande, c'est tout des...
Ben à Québec, on est très fort là-dessus, particulièrement, encore plus que n'importe où ailleurs au Québec.
Moi, je dis Durham en passant.
Ah, OK. Bon, ben
moi,
là, tu viens de casser mon point.
Non, mais c'est vrai que j'entends plus Durham que Maguire, mettons.
Ouais.
La raison pourquoi on ne savait pas que c'était ce nom-là, c'est qu'initialement, ça s'appelait comme ça lorsqu'on a construit la première terrasse en 1838.
Mais
le nom, il est changé depuis 1878.
OK, ça a été
c'est ça. Ça a été changé quand même rapidement.
Michel Swill, un gros merci. Où est-ce qu'on peut te suivre?
Partout.
Partout.
TikTok,
bon, ben,
Instagram, Facebook, YouTube.
Puis là, tu continues à te préparer pour ton animation là, qui s'en vient dans les prochains jours.
Exactement. Dimanche, je vous invite à venir découvrir l'opéra. Ou si vous aimez déjà l'opéra, il va y avoir toutes les plus grands airs. Mais ça se passe au parc Jean Béliveau à 19h30. Si jamais il pleut, on remet ça au lundi, tout de suite après, la journée d'après. Puis ben, vous doutez bien que si c'est moi qui anime, ça se peut qu'il y ait des petits fun facts historiques. Je vais vous parler de Minuit chrétien. Je vous l'annonce tout de suite.
Ben là, j'aurais pas le choix d'abord.
Écoute, on parle de hit ou on parle pas de hit?
Ben c'est ça. Merci beaucoup, Michel.
Merci à toi.
Au retour, je vous gâte, c'est le match Boulevard des Capitales de Québec qui s'en vient. J'aurai la chance de faire le lancer protocolaire. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à ne pas manquer. Et j'ai deux accès dans la zone Kepler qui comprend trois consommations par personne, le popcorn à volonté puis une super ambiance. Le match, ça se passe le 20 août prochain. Je vous fais tirer des billets. Au retour! Le retour.